c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, le nouveau président du Kenya, William Ruto, prend officiellement ses fonctions aujourd'hui.
Oui, la Cour suprême a finalement validé sa victoire à 50,5% des voix, un résultat très serré donc face à son adversaire Raila Odinga. Celui-ci, 5 fois candidat à la présidence et 5 fois perdant, avait déposé un recours devant la Cour suprême pour contester la validité du décompte des suffrages, accusation rejetée donc par les 7 juges. William Ruto, 55 ans, prend aujourd'hui la tête du Kenya, qu'on considère comme la locomotive économique d'Afrique de l'Est, un pays qui a gagné son indépendance en 1963 de la couronne britannique, et c'est d'ailleurs là, 10 ans plus tôt, en pleine tournée du Commonwealth, qu'Elisabeth II apprenait la mort de son père et son nouveau statut de reine. La colonisation y a été brutale, des communautés chassées de leurs terres pour y planter du thé, une insurrection contre l'administration coloniale réprimée dans le sang, et aujourd'hui, le Kenya avance pour prouver au continent qu'il observe qu'il est bien toujours une démocratie. Bonjour Marie-Emmanuelle Pomerol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice de l'Institut français de recherche en Afrique. Alors la Cour suprême a délibéré pendant 7 semaines avant de valider le résultat de l'élection présidentielle. Comment cette instance judiciaire a-t-elle gagné la respectabilité des Kenyans à tel point qu'aucun allié de Raila Odinga, donc le perdant qui contestait les résultats de la présidentielle, aucun allié n'a remis en cause le jugement ou plutôt le travail des 7 juges de la Cour suprême.
Alors, cette Cour suprême avait invalidé l'élection de 2017, qui était alors gagnée par le président sortant, Kenyatta, et cette annulation, évidemment, avait marqué l'indépendance de cette Cour suprême. Une Cour suprême renforcée par la Constitution de 2010, une Constitution considérée comme très progressiste sur le continent. Et puis, depuis 2017, cette Cour suprême avait encore montré des gages d'indépendance, notamment en annulant un projet de référendum constitutionnel qui visait à remettre en cause cette constitution. Et puis, peut-être dernier point, le jugement a été prononcé à l'unanimité. Et donc, il n'y a pas eu de voix dissidente au sein de cette cour.
Donc, 7 juges qui tous se sont prononcés pour valider le résultat de l'élection présidentielle du mois d'août. Alors, l'argumentaire de Raila Odinga, le perdant, et de son équipe, c'était de dire que la commission électorale kenyane, elle, est défectueuse. Si la Cour suprême kenyane semble être un modèle d'indépendance et de transparence, est-ce que c'est le cas de cette commission électorale kenyane ?
Alors effectivement, il y a eu des luttes très très fortes au sein de cette commission électorale, elle-même mise en place par la nouvelle constitution, mais elle est effectivement secouée par des luttes politiques importantes, chaque candidat souhaitant avoir ses commissaires au sein de cette commission électorale. Et puis elle n'est pas aidée par le fait que le droit électoral n'est pas tout à fait stabilisé depuis cette nouvelle constitution, le fait que le Parlement ne lui a pas donné les moyens de fonctionner. Néanmoins, on peut dire que par le bas, les équipes qui ont travaillé au jour le jour pour faire advenir cette élection ont fait leur travail de manière plutôt acceptable, comme l'a démontré la Cour suprême.
Il y avait une sorte de mal-donne en 2017, l'argent n'était pas arrivé assez tôt pour préparer le scrutin, les commissaires avaient été nommés seulement quelques mois avant, vous le disiez, des éléments de droit électoral ne sont pas encore fixés. Qu'est-ce qui fait dire aujourd'hui que le Kenya, malgré tout, est une démocratie, et qu'est-ce qui pêche au contraire, puisque vous avez parlé de luttes politiques internes qui parfois brouillent un peu les cartes?
Ben, on a l'impression aujourd'hui d'avoir, donc grâce encore une fois à cette constitution, l'indépendance d'un certain nombre de commissions, une décentralisation très forte, on a l'impression d'institutions qui progressivement proposent des conditions du jeu politique assez démocratiques, donc des institutions assez fortes, et une classe politique qui continue de jouer un jeu parfois violent, parfois de mobilisation ethnique, bref, une classe politique qui est un petit peu en retard par rapport aux avancées institutionnelles.
Alors ça avait été surtout le cas en 2007-2008, dans des violences post-électorales meurtrières qui avaient fait plus de 1000 morts. Cette fois-ci, le 15 août, quand ont été proclamés les résultats, il y a eu quelques échauffourées, notamment dans la capitale, certains quartiers de la capitale, Nairobi, au quartier général de la commission électorale, mais rien qui ne ressemble à ces émeutes meurtrières de 2007-2008. On avait parlé à l'époque de violences interethniques, certes organisées, manipulées par les politiques, mais encore pas cette fois, et c'est bien aussi de parler des choses quand ça va bien. Est-ce que la politique kényane se joue aujourd'hui, se lie encore aujourd'hui sur des critères ethniques, Marie-Emmanuelle Pomerol?
Alors effectivement, les discours de campagne ont été tournés beaucoup moins cette année, lors de cette échéance électorale, autour de ralliements ethniques. Tout simplement parce que le jeu était très serré, les alliances politiques avaient changé, et donc les leaders en place, les candidats en place, devaient s'adresser à un ensemble de la population bien plus large que leur propre communauté, même si ça n'empêche pas, et ce n'est pas mal, qu'ils s'adressent aussi à leur communauté, parce qu'il y a une forme d'obligation aussi sociale envers elles. Mais cette fois-ci, le discours s'est plutôt tourné vers des questions socio-économiques. Donc pour ces raisons politiques, mais aussi parce que le discours ethnique n'est absolument pas suffisant pour mobiliser des Kényans qui sont habitués à aller voter et qui demandent plus, qui exigent plus de leurs représentants politiques.
Donc ça s'est vu aussi dans les résultats de l'élection. Si on regarde dans certains territoires, par exemple la province centrale du Mont Kenya, qui est un foyer de la communauté Kikuyu, contre qui d'ailleurs William Ruto, qui vient d'être intronisé président, qu'il sera tout à l'heure, a été accusé d'avoir organisé des crimes contre l'humanité. Cette communauté Kikuyu, est-ce qu'elle a voté pour le candidat Kikuyu, en l'occurrence, dites-moi si je me trompe, c'est le président sortant.
Non, le président sortant qui soutenait
le perdant.
Le voilà. Perdant, exactement. Alors non, c'est un peu la grande surprise de cette échéance, c'est que la province centrale donc a fait défection et a choisi de voter pour William Ruto, qui n'est donc pas Kikuyu. Notamment du fait d'une fatigue vis-à-vis des leaders de ces leaders Kikuyu, et notamment de la famille Kenyatta, puisque la famille Kenyatta est au pouvoir depuis 1963, le père d'abord, le fils ensuite, il y a eu d'autres présidents entre les deux. Il y a une forme de fatigue de cette monopolisation en fait des institutions politiques par une dynastie.
Baptiste Muckenstone.
Marie-Emmanuelle Pomerol, qui sont les électeurs de William Ruto? Ces discours sur les débrouillards, les hustlers, je ne sais pas si c'est les arnaqueurs ou les débrouillards.
Oui, c'est vrai que
Est-ce qu'ils ont séduit au-delà des clivages habituels?
Oui, bien sûr. Notamment dans cette province centrale, où vous avez beaucoup de jeunes qui sont très éduqués mais qui ne trouvent pas de travail et qui donc tous les jours cherchent à un petit revenu en se débrouillant, en apportant de l'eau ici, en proposant une connexion électrique là, donc faisant finalement une forme de service public, mais évidemment n'ayant pas de salaire correspondant. Et ce discours de envers ces débrouillards, il a même parlé de Hustler Nation, donc une nation de débrouillards. Ça a vraiment fonctionné, même dans les bastions de l'opposant Raila Odinga, à Kibera par exemple, dans un grand quartier populaire de Nairobi. Les supporters de Raila ont voté, ou en tout cas étaient plutôt séduits par ce discours. Peut-être juste un point là-dessus, Ruto se présente lui-même comme un hustler, un débrouillard, ne faisant pas partie donc de cette élite politique, de ces dynasties que représentent ces deux opposants, donc Kenyatta, l'ancien président, et Raila Odinga.
Et justement, de quel changement se porte-t-il garant? Quelle rupture marque-t-il par rapport à ses prédécesseurs, au moins dans les discours, mais aussi dans les actes, puisqu'il a été vice-président, donc on sait à petit peu près à quoi s'attendre.
Mais ce qu'il souhaite mettre en place maintenant, c'est aider ces débrouillards plutôt que de poursuivre la politique de grands travaux qui a été celle de ses prédécesseurs. De Kenyatta et qui a augmenté très largement la dette. Ça, c'est l'une des grandes questions. C'est la question de la dette, mais c'est aussi la question de la souveraineté du Kenya, puisque cette dette, elle est chinoise notamment. Et puis, un autre point important, c'est la question de l'inflation. La vie est extrêmement chère au Kenya. Il y a évidemment des questions internationales, mais aussi les questions de fonctionnement du marché, monopolisé par certains. Et c'est l'une des choses à laquelle il veut s'atteler.
33% des Kenyans vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté d'après la Banque mondiale. On a l'impression donc d'un vote de classe qui commence à émerger au Kenya, loin des considérations ethniques des années précédentes. Ce défi de la dette que vous évoquiez, Marie-Emmanuelle Pomerol, elle a été multipliée par 4 en 10 ans. Elle s'élève aujourd'hui à 72 milliards de dollars, notamment parce que ses prédécesseurs ont contracté beaucoup d'emprunts pour financer les travaux d'infrastructure. Est-ce que lui souhaite poursuivre quand même d'une façon ou d'une de cette politique d'infrastructure, est-ce qu'elle est nécessaire au Kenya? Comment compte-t-il appréhender cette question de la dette?
Alors, effectivement, là, pour l'instant, elle est à peu près à 70% du PNB, donc c'est pas non plus énorme, en comparaison avec nos propres dettes. Certains la justifient en disant qu'effectivement, il y a besoin de routes, il y a besoin d'infrastructures de transport importantes. Il faut néanmoins que ces infrastructures et ces investissements fonctionnent. Et ce qu'on reproche aux administrations précédentes, c'est d'avoir engagé des grands travaux qui ne sont pas des éléphants blancs, mais parfois qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas assez productifs. Donc lui propose de revenir là-dessus, de limiter la dette et surtout de promouvoir, on va dire, la petite entreprise dans un discours qui est un discours assez, on va dire, néolibéral que l'on entend ailleurs et un discours qui est très très prégnant au Kenya où allié, si vous voulez, un discours aussi religieux dont il est porteur Ruto, fait que si on veut, si on travaille, on va y arriver. Et lui se propose d'aider chaque Kenyan à une forme de mobilité sociale.
Et il est accompagné pour sa politique économique d'un économiste reconnu au Kenya qui s'appelle Davindi, et donc il l'accompagne dans cette politique pour aider les débrouillards, comme il le dit. Est-ce que aujourd'hui le Kenya dépend aussi beaucoup de l'aide bénéficie d'une aide internationale? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des bailleurs de fonds? Comment cette élection a été scrutée? On disait que le Kenya est scruté par les pays du continent africain et notamment ses voisins qui, eux, sont tous dans des situations, qu'elles soient financières ou autres, très difficiles. Mais comment les observateurs internationaux et surtout les bailleurs de fonds ont vécu cette élection et l'ont suivi?
On avait l'impression qu'ils étaient plutôt, au départ, pro Raila Odinga, une forme de... Parce que les diplomates sont plutôt pour, on va dire... le statu quo, le plus souvent. On connaît Raila, ça fait 5 fois qu'il se présentait aux élections. Néanmoins, on a vu que très très rapidement, les conditions de l'élection ont été validées par l'ensemble des observateurs, qui étaient très très nombreux cette année encore. Et que aujourd'hui ils sont là pour féliciter le nouveau président. Donc on sent qu'ils sont tout à fait prêts à soutenir la nouvelle présidence Ruto.
Peut-être un dernier mot, Marie-Emmanuelle Pomerol, pour conclure. C'est une page aussi qui se tourne de la politique kényane. Vous disiez tout à l'heure que le nouveau président William Ruto veut se distinguer des grandes familles. Il parle de dynastie Kenyatta et Odinga, qui quand même étaient les grandes familles du Kenya d'après indépendance, d'après 1963.
Alors, effectivement, de ce point de vue-là, il s'en distingue. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est dans le système politique depuis 1992. Qui est né politiquement dans au creux, si vous voulez, de l'ancien parti unique, quelqu'un qui n'est pas étranger aux violences politiques. Donc dans ses pratiques, je suis pas sûre qu'il se distingue complètement de ce qui a existé jusque-là. Néanmoins, il est certain que les électeurs kényans ont démontré qu'ils attendaient autre chose, qu'ils étaient capables de mettre dehors les dirigeants de cette dynastie. Et puis on a des institutions, comme on le disait tout à l'heure, qui sont là pour contrôler et surveiller les Ces pratiques politiques.
Pratiques notamment en ce qui concerne le nouveau président, aussi peut-être d'expropriation de terres et de corruption, puisqu'il fait l'objet de plusieurs accusations. On verra si pendant son mandat il en est inquiété. En tout cas, il est très riche. Hein. L'immobilier, l'agriculture, les assurances lui ont fourni un revenu considérable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Emmanuelle Pomerol. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice de l'Institut de français de recherche. Non, vous n'êtes plus directrice.
Je ne suis pas directrice.
Vous n'êtes pas directrice. Mais vous y travaillez en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Merci. Les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux. Julie Gacon. Voilà, ça sera à 6h40 d'ailleurs, les enjeux internationaux.
France Culture. L'esprit d'ouverture.